Bonjour à tous. Nous continuons ce matin notre parcours intitulé « Bâtir sur du solide », surtout notre parcours qui nous amène à étudier le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne qui est le discours inaugural de Jésus dans l'évangile de Matthieu, le discours qu'il fait à ceux qui veulent le suivre. Ce n'est pas un discours qui fait comme ça, en pleine rue. C'est ceux qui sont intéressés, qui le suivent et qui lui demandent « Que devons-nous faire ?» Jésus prend le temps, dans l'évangile de Matthieu, d'exposer, en quelque sorte, son programme de vie, ce qu'il demande à ceux qui veulent le suivre. La semaine dernière, la prédication a été intense, en tout cas à Brioude, où j'étais. J'ai écouté la prédication de Michael, qui l'a donnée ici, et j'ai trouvé très intéressante, avec beaucoup de matière pour réfléchir, pour conformer ma vie à la volonté de Dieu. À Brioude, nous avons eu la prédication sur le même sujet, le pardon et la réconciliation. Et si vous me permettez l'expression, c'est un peu parti en live. C'est parti en live dans le sens où le direct, les sentiments qui étaient là ont pris le dessus sur ce qui était préparé dans la prédication. Dans la vingtaine de personnes qui étaient présentes, les questions était brûlante et nous avons eu un moment de discussion riche et intense. Mais comment on fait? Comment on fait concrètement pour vivre le pardon, pour vivre la réconciliation? Et je me suis rendu compte que cet enseignement de Jésus, il n'est pas facile à vivre. Il n'est pas facile à entendre, et quand on l'écoute sérieusement et qu'on examine sa vie à la lumière de ce que Jésus demande, eh bien c'est pas facile. Et on peut être un peu écrasé par ce que Jésus demande. Et du coup, c'est dans cet état d'esprit que j'ai regardé le texte qui nous est proposé pour ce matin dans le parcours. Et mon premier réflexe a été de me dire, mais c'est encore plus dur que la semaine dernière. Ce matin, Jésus va encore plus loin, puisqu'il parle de l'amour des ennemis. Et voilà, et donc c'est un peu embarrassé que je me présente devant vous, mais je vous invite à lire le texte, ce que dit Jésus dans Matthieu 5. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Et nous lisons à partir du verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi ». Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les collecteurs de taxes eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les non-juifs eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous serez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je le disais, le sermon sur la montagne s'adresse à des disciples, à ceux qui veulent suivre l'enseignement de Jésus. Le sermon sur la montagne, certains l'appellent la loi de Jésus, hein, par opposition à la loi de Moïse. Moïse a reçu les 10 commandements de la part du Seigneur sur une montagne et il les a apportés au peuple qui était rassemblé là. De même, Jésus est sur la montagne pour donner son enseignement. Si vous regardez un peu le début du sermon sur la montagne, on l'a étudié, plusieurs l'ont étudié dans le cadre de notre programme, ce sermon commence par ce qu'on appelle les béatitudes. Heureux. Heureux êtes-vous. Si vous ressemblez au Seigneur, si vous avez un cœur selon le Seigneur. Ces béatitudes, c'est un peu l'introduction. Et après cela, Jésus parle de la loi. Il choisit de renforcer la loi de Moïse. Il dit au verset 17 du chapitre 5, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Et au verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Jésus ne vient pas donner une nouvelle loi. Il vient vivre, il vient incarner, il vient au bout de celle donnée par Moïse. Et en fait, c'est normal. La loi donnée par Moïse, c'est la loi qui vient de Dieu. Dieu ne change pas. Sa volonté pour l'homme reste la même. Anne-Marie nous a un peu retracé l'histoire de la révélation. La volonté de Dieu reste la même du début jusqu'à la fin. Mais devant nos échecs successifs, il nous l'explique différemment. Après cette introduction sur la loi, où Jésus dit qu'il ne vient pas pour la supprimer, mais pour l'accomplir, il y a une série de petits textes, de petits enseignements, qui commencent par « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. » Il y en a comme ça, je ne sais pas compter, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette fois, vous avez entendu qu'il a été dit, moi je vous dis. Jésus reprend non seulement la loi de Moïse, mais aussi toute la tradition orale, tout ce que les religieux expliquent, pour expliquer cette loi. Voilà, c'est ce qui vous a été dit, mais moi, je vous dis. Et le texte que nous avons lu la semaine dernière, sur le pardon, sur la réconciliation, c'est le premier de ces enseignements. Ensuite, Jésus continue, vous l'avez peut-être médité cette semaine, la lutte contre la tentation, ou le besoin de vivre dans la vérité absolue. Juste avant notre texte, il parle aussi du refus de la vengeance, avec ce verset très célèbre, connu au-delà des cercles chrétiens, « Si quelqu'un te frappe la joue droite, tends-lui l'autre. » Et c'est juste après cela que se place notre texte d'aujourd'hui. Le dernier enseignement sous cette forme, vous avez entendu qu'il a été dit, moi je vous dis. Vous avez entendu qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Là, pour le coup, on a un exemple de quelque chose qui n'est pas tout à fait biblique. Tu aimeras ton prochain, ça se trouve dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique. Par contre, tu détesteras ton ennemi, ça ne s'y trouve pas. Ça fait partie des explications de la tradition orale, de ce qu'enseignaient les enseignants religieux à cette époque. Et parmi eux, certains expliquent en rajoutant « tu haïras ton ennemi ». Ils considèrent que le prochain, c'est mon frère, le membre du peuple. Et que l'étranger, celui qui n'est pas membre du peuple de Dieu, lui c'est mon ennemi. Je n'ai rien à voir avec lui. Mais Jésus vient contredire cela, vient expliquer que leur interprétation de la loi de Moïse n'est pas bonne. Il le fait là, il le fait aussi ailleurs dans les évangiles. Vous connaissez certainement la parabole du bon samaritain, et c'est justement cette problématique. Quelqu'un qui vient voir Jésus, ok, aimer mon prochain, ok. Mais c'est qui mon prochain ? Et Jésus, dans la même veine que le texte qu'on a lu aujourd'hui, lui répond « Tu peux même pas imaginer. » Dans ce texte, dans ces textes, dans ces enseignements, je le disais, Jésus vient expliquer la loi et même en étendre sa compréhension. Face aux ennemis, il est demandé non pas de les haïr, mais de les aimer. La semaine dernière, on parlait de pardon. Là, ce n'est pas le pardon qui est demandé pour les ennemis, c'est l'amour. Le pardon, c'est une réconciliation. Il vient en réponse à une démarche. Là, ce que Jésus demande, c'est d'aimer ses ennemis. Ce qui est étonnant avec ces enseignements de Jésus, c'est qu'ils ne sont pas très difficiles à comprendre. Il n'y a pas besoin de grandes explications de texte. Par contre, comment on va les vivre ? Et là, par rapport à celui-ci, je relève trois questions. Qui est mon ennemi ? Comment l'aimer ? Et pourquoi ? Qui est mon ennemi, tout d'abord ? C'est une bonne question. À l'époque de Jésus, on demandait qui est mon prochain, et puis mon ennemi, c'est l'autre. Mais si on écoute l'enseignement de Jésus, il faut aimer son ennemi. Qui est mon ennemi ? En lisant les deux textes de la semaine dernière et de cette semaine, l'un après l'autre, j'ai l'impression de voir apparaître différents niveaux dans nos relations avec les autres. La semaine dernière, Jésus nous indiquait que faire avec mon frère. Si tu es devant Dieu et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Ensuite, il parlait de mon adversaire. Si tu es en chemin avec ton adversaire, dépêche-toi. Là, il nous parle de l'ennemi. Mon frère, c'est celui qui est proche de moi, c'est celui que je vois très fréquemment. Et si je le vois très fréquemment, j'ai de nombreuses occasions de disputes avec lui. Jésus nous disait, s'il a quelque chose contre toi, va te réconcilier. L'adversaire, c'est quelqu'un avec lequel j'ai un désaccord plus profond, quelque chose qui dure dans la durée. Mais c'est quand même quelqu'un avec qui j'ai des valeurs communes. Puisque on est en chemin avec l'adversaire pour aller vers le juge, c'est qu'on reconnaît tous les deux l'autorité du juge pour trancher entre nous. Il y a quand même quelque chose en commun. Avec ton adversaire, dépêche-toi de trouver un compromis, dit Jésus. Mais là, on est face à une troisième catégorie, l'ennemi. L'ennemi, c'est quelqu'un qui ne suit pas les mêmes règles que nous. On n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. C'est quelqu'un qui vit avec l'objectif de nous pourrir la vie. Et en lisant ces textes ensemble, j'ai cru déceler une certaine progression. Si je néglige de me réconcilier avec mon frère, peut-être deviendra-t-il un adversaire. Si je néglige de trouver un accord avec un adversaire, peut-être peut-il devenir un ennemi pour moi. Un ennemi. Quelqu'un qui m'en veut, qui veut me diminuer, quelqu'un qui veut ma peau. Qui sont nos ennemis? On pense très rapidement à ce que vit l'Église persécutée. Surtout en ce moment, l'Église est, dans le monde, mise à rude épreuve. L'Église persécutée, ce sont les chrétiens qui font face à des règles iniques, soit qui sont écrites dans la loi, que dans la loi du pays il est écrit de persécuter les chrétiens, soit dans les faits. La loi, officiellement le pays est laïque, mais la haine des chrétiens est présente dans la population et les autorités ferment les yeux là-dessus. C'est ce que vit l'Église persécutée. Et ne l'oublions pas dans nos prières. Mais même si nous ne vivons pas dans un pays où nous vivons de telles persécutions, nous pouvons quand même avoir des situations, des relations que nous vivons comme des relations d'ennemis. Un collègue avec qui ça se passe mal et qui rend les choses difficiles, qui met des bâtons dans les roues, qui génère en nous la peur en ventre tous les matins avant d'aller au boulot. Un voisin avec qui rien ne va, avec lequel, quoi qu'on fasse dans son jardin, dans sa maison, on aura toujours une remarque. Toujours la pression comme ça qui est mise. Parfois même, ça peut être un très proche, notre conjoint avec lequel on n'y arrive plus et qu'on peut s'embourber dans une relation dans laquelle on va essayer de se donner des coups de canif et ça va devenir un objectif. Et c'est possible dans l'Église. Si je néglige la réconciliation avec mon frère, si on ne fait pas ce que Jésus demande, de faire le premier pas, d'agir tout de suite, il peut devenir mon ennemi. Quelqu'un qui va chercher à me nuire. Ça m'amène à la deuxième question. Comment aimer mon ennemi ? Qu'est-ce que ça veut dire finalement, aimer? Et Jésus donne une indication au verset 45. Au verset 44, il a dit « Aimez vos ennemis, alors vous serez fils de Dieu qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu a des ennemis. Dieu a des gens qui se dressent contre lui, des hommes qui le rejettent, qui refusent la main tendue, qui l'insultent même. Et Dieu refuse de les frapper. Il refuse de les foudroyer là, sur le champ. Pierre écrit dans sa deuxième épître, « Dieu fait preuve de patience à leur égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse, il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. » Face à ses ennemis, Dieu les laisse vivre, mais non seulement il les laisse vivre, mais en plus il leur donne ce dont ils ont besoin. Jésus en parle, le soleil qui se lève aussi pour eux, l'eau qui vient aussi arroser leurs champs. Aujourd'hui, on pourrait dire la santé également, la famille, tout cela, il leur accorde. Sa divine providence s'applique à tous, justes comme injustes, ses enfants comme ceux qui le rejettent. Comment l'aimer? Comment aimer nos ennemis? De la même manière que Dieu aime ses ennemis. Nous avons une vocation, vocation d'amour, vocation d'accueil, de générosité pour celui qui manque de quelque chose, de compassion pour celui qui souffre. Et cette vocation, nous sommes appelés à la vivre envers tous. Aussi bien envers notre frère, celui qui nous aime, qu'envers notre ennemi, celui qui nous pourrit la vie. Nous sommes appelés à agir envers lui comme nous agissons envers tous. Mais pourquoi ? Pourquoi ne peut-on pas juste aimer nos amis et haïr nos ennemis? C'est naturel. C'est naturel d'éviter ceux qui nous font du mal. C'est comme ça qu'on se protège. Dieu veut un peuple saint. Un peuple mis à part. Un peuple différent. Je vous rappelle le contexte du sermon sur la montagne. Ça s'adresse à des disciples, à des gens qui ont entendu l'appel de Jean-Baptiste, l'appel de Jésus qui dit « Changez de comportement, car le royaume de Dieu est proche. » Et à ceux qui viennent sincèrement vers Jésus en demandant « Qu'est-ce qu'il faut changer dans ma vie ?» Voilà le programme. Ceux qui sont ici, ceux qui écoutent, ce sont des gens qui veulent changer, qui veulent plaire à Dieu, sincèrement. Jésus nous dit, si vous voulez plaire à Dieu, il va falloir faire mieux que les autres. Il va falloir se distinguer. Aimer ceux qui sont gentils avec nous, ça tout le monde le fait. Ce n'est pas se distinguer. Les collecteurs d'impôts, ceux qu'on méprise, ceux qui sont des escrocs, qui abusent de leur position, ils le font, aimer ceux qui les aiment. Les non-juifs, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas de morale, ils le font, aimer ceux qui les aiment. Si vous êtes différent, si vous prétendez être différent, aimez ceux qui vous haïssent. Traitez-les de la même façon que vous traitez ceux qui vous aiment. Ok ? Et comment on fait ? Comment on fait concrètement pour vivre ça? C'est la question qui m'a été posée la semaine dernière. Je suis à devant cette semaine. Comment je fais concrètement avec celui qui me fait souffrir? Celui qui refuse la réconciliation. Chaque fois que je vais le voir, je me prends des coups. Comment je fais pour l'aimer? Comment je fais pour le traiter comme celui qui m'aime? Qu'est-ce que je peux vous répondre, moi? Je ne suis pas un super chrétien. Je ne suis pas meilleur que vous. Qui suis-je pour dire « il n'y a qu'à le faire » Et c'est bien petit que je suis là devant vous. Ce que je peux faire, c'est partager quelques éléments de réflexion sur le sujet qui, j'espère, vont vous aider, vont nous aider à avancer dans cette voie. La première chose que j'aimerais partager, c'est que le monde dans lequel on vit est dur. Il est plein de dureté. Pour réussir, pour exister, on nous apprend à nous blinder. Notre monde cultive la dureté. Et je suis étonné comme on s'encourage à cela, même dans l'Église des fois. Quand on vient nous demander quelque chose, par exemple au travail, quand on vient nous confier une mission qui ne nous plaît pas, quand il y a un voisin qui veut un peu plus de place dans le quartier, que peut-être ça va rogner sur ce qu'on avait, quand notre conjoint prend un peu plus de temps pour lui, ça va peut-être être un peu moins de temps pour nous. On s'encourage les uns les autres. Et on se dit des phrases comme « Mais tu as le droit de refuser. Ils n'ont pas le droit de te faire ça. Tu peux râler, tu peux te plaindre. Te laisse pas faire. » On est encouragé à être dur, à se blinder, à cultiver ça. Il faut en prendre conscience. Dans les béatitudes, la troisième, c'est « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. » C'est ça que Jésus nous demande de pratiquer. La douceur, être artisan de paix et même accepter la persécution. Pour ça, nous avons besoin qu'il nous transforme. Ce n'est pas par nos propres moyens que nous pouvons y arriver. Demandons-lui de nous transformer. Laissons-le nous transformer. Pour rompre avec la dureté de ce monde. La deuxième chose que j'aimerais partager avec ceux qui veulent entamer cette démarche, c'est qu'il faut bien comprendre que Jésus ne donne pas là la recette du succès. Quand il nous dit de faire le premier pas, d'aller nous réconcilier, de pardonner, d'aimer nos ennemis, il ne dit pas « c'est comme ça que vous aurez de bonnes relations avec tout le monde ». Il ne nous dit pas « allez voir les gens pour vous réconcilier, ça va marcher ». Non, ça ne va peut-être pas marcher. Peut-être que vous allez aimer votre ennemi et que ça ne va rien changer dans votre relation avec lui. Ce n'est pas ce qu'il a promis, alors soyez prêts à ça. Et au contraire, il laisse entendre que un frère peut se transformer en adversaire, puis peut-être en ennemi. Il dit clairement que nous pouvons être persécutés, ailleurs que nous allons l'être. S'il nous demande de faire ça, ce n'est pas pour être réconcilié avec tout le monde. Ce n'est pas pour avoir des bonnes relations avec tout le monde. S'il nous demande cela, c'est pour plaire à Dieu. Cette démarche de paix, cette démarche de réconciliation, cette démarche d'amour, ce n'est pas pour nos relations avec les autres qu'il faut les faire. C'est pour plaire à Dieu. L'important, ce n'est pas que ces démarches réussissent. L'important, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Le but de la démarche n'est pas d'être en paix avec tout le monde, mais d'être en règle avec Dieu. Que le jour où il nous demandera des comptes, et qu'il nous demandera « Et qu'est-ce que tu as fait pour être en paix avec lui ?» on puisse lui répondre « Seigneur, j'ai essayé. » Et puis, la troisième chose que j'aimerais partager avec ceux pour qui c'est difficile, ceux qui sont dans des relations où ils se font marcher dessus, où ils se font humilier. C'est dire qu'il y a une place pour la vengeance. Il y a une place pour la vengeance, et cette place, c'est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui venge, c'est Dieu qui rend justice, qui rétribue chacun selon ses actes. Il viendra rétablir le droit de ceux qui se font marcher dessus. L'Éternel vient, il vient juger la terre, il jugera le monde selon ce qui est juste, il jugera les peuples selon la vérité qui est en lui. Psaume 96. Mais en attendant, on fait quoi quand c'est trop lourd? Qu'est-ce que je fais quand je ne peux pas laisser sortir cette violence qui pourtant monte en moi? Je crois que la Bible nous enseigne que dans ces cas-là, on peut en parler à Dieu. Si vous avez lu les psaumes, vous avez certainement remarqué que nombre d'entre eux appellent sans voile, sans filtre à la destruction des ennemis. J'aimerais vous en lire un. Psaume 94. Dieu qui châtie le coupable, Éternel. Dieu qui châtie le coupable, intervient. Ô toi, juge de la terre, lève-toi et viens rendre aux orgueilleux leur salaire. Combien de temps les méchants, Éternel, combien de temps les méchants vont-ils encore triompher? Ces vantards parlent avec insolence, tous ces artisans du mal fanfaronnent. Ton peuple, ils l'oppriment, Éternel, et ils humilient ceux qui t'appartiennent. Ils tuent l'étranger et la veuve, l'orphelin, ils l'assassinent. Ils disent « L'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y prête aucune attention. » Si l'Éternel ne m'avait pas secouru, je serais allé rejoindre la demeure du silence. À peine ai-je dit « Je vais perdre pied que dans ton amour éternel, tu m'as soutenu. » Lorsque des pensées en foule s'agitaient contre moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Pourrait-il s'allier à toi ce pouvoir injuste qui crée le malheur au mépris des lois? Ils se coalisent afin d'intenter à la vie du juste et de condamner à mort l'innocent. Mais l'Éternel est pour moi une forteresse. Oui, mon Dieu est le rocher où je trouve abri. Il fait retomber sur eux leurs péchés. Il les anéantira par leur perversité même. Oui, l'Éternel, notre Dieu, les anéantira tous. Quand vous perdez pied, Lisez ces psaumes. Répandez devant Dieu votre détresse. Vous pouvez le faire avec un frère, avec un pasteur, un ancien, quelqu'un pour vous y aider. Ces psaumes font du bien. C'est pas du défoulement. C'est pas un punching ball. C'est dire à Dieu ce qu'on a sur le cœur. Et Dieu l'agrée. Dieu l'a mis dans sa parole pour nous montrer l'exemple, pour nous montrer qu'on peut le faire ainsi. Alors, il ne faut pas en rester là. Et vous l'avez vu dans ce psaume, le psalmiste n'en reste pas là. Cette révolte qui répand, c'est aussi un moyen, en le répandant, de s'ouvrir à Dieu pour que Dieu lui montre ce qu'il attend de lui, pour que Dieu lui rappelle qu'il fera sa justice, qu'il peut faire confiance et qu'il peut se concentrer sur sa tâche pour aimer son ennemi. Il y a quelque chose de troublant dans les psaumes, le psaume 142. C'est un psaume composé par David alors qu'il était pourchassé par Saül qui voulait le tuer. Et dans 1 Samuel, on voit qu'à ce moment-là même, Dieu a livré Saül à David. Saül est rentré dans la caverne où était caché David. Il était là, au bout de son couteau, au bout de sa lame. Il aurait pu en faire ce qu'il voulait. Il aurait pu être débarrassé de son ennemi. Il a choisi de l'épargner. Et je suis persuadé que cette force pour l'épargner, il l'a puisée dans sa vie spirituelle avec le Seigneur, dans ce qu'il était capable de lui remettre sa colère, sa révolte pour son ennemi. Et que du coup, dans ses actes, il a pu l'aimer. Aimez vos ennemis. Comment conclure? Si nous voulons suivre Dieu, si nous voulons être saints, mis à part, alors il nous faudra prendre cette voie, ce chemin étroit. Cette voie est étroite, elle est difficile et je ne peux que vous donner quelques conseils, aucune solution, mais d'essayer de rompre avec la dureté de notre monde, de ne pas suivre cette voie pour trouver la paix avec les autres, mais pour plaire à Dieu, d'avoir comme objectif d'aimer pour lui, et puis de lui faire confiance à lui pour nous faire justice. Cette voie, elle est difficile, elle n'est pas naturelle. La nature, c'est de haïr nos ennemis. Cette voie, on ne peut l'emprunter qu'avec Jésus. Et c'est pas facile, mais Jésus l'a fait. Il a vécu jusqu'au bout l'amour de ses ennemis. Je sais que je dépasse le temps, mais je ne peux résister à partager avec vous ce qu'a vécu Jésus et comment il a vécu ça. Les soldats du gouverneur traînèrent Jésus à l'intérieur du palais et rassemblèrent toute la cohorte autour de lui. Ils lui arrachèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau écarlate. Ils lui posèrent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux. Dans sa main droite, ils placèrent un roseau en guise de sceptre. Il s'agenouillait devant lui en disant sur un ton sarcastique « Salut, roi des Juifs !» Il crachait sur lui et prenant le roseau, il le frappait à la tête. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Plus tard, Jésus poussa un grand cri, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. Je vous invite à la prière.